déambulation.
Depuis le 5 janvier, la compagnie La Fabrique des Petites Utopies est en résidence au Théâtre de Die. Bruno Tircuir, metteur en scène, prépare une pièce dramatique, La rue des voleurs. D'après le roman éponyme de Mathias Hénard, une visite lors d'une journée de travail de la compagnie.
Bonjour.
Bonjour.
On est live, hein. On travaille, là, t'es dans le studio vidéo.
Vous y faites quoi dans ce studio?
Ici, c'est le studio de montage.
Tilila Latifa Id Massaou.
C'est le studio de la victime, l'équipe vidéo. On s'occupe donc de la création vidéo du spectacle Rue des voleurs, sous la direction de Bruno Tircuir. Et c'est là où, comme on dit, the magic happens. On fait du montage, mais aussi des réunions par rapport à tout ce qui est tournage, par rapport à tout ce qui est trame et ligne directionnelle, on va dire. Voilà. En gros, c'est ça.
En fait, dans Rue des voleurs, il est toujours question de son souvenir de comment sa vie s'est passée. Rue des voleurs, l'histoire de la Lac d'Ar, hein, tu te souviens, on
s'est Bruno Tircuir.
Comment ce jeune Marocain se retrouve en prison. Il va rebalayer toute sa vie. Il va la raconter depuis le fond de sa cellule. Et tout remonte par système de flashback. Et par rapport au cinéma ou au roman, j'ai demandé à l'équipe vidéo que les souvenirs ne soient pas des choses aussi simples qu'un flashback avec... un dialogue réel, ça n'existe pas, ça. Il y a vraiment qu'au cinéma, pour le coup, et dans le roman, qu'on est capable de revivre une conversation chronologiquement. Et donc, l'idée, c'est que chaque moment comme ça soit vraiment dans cette confusion, dans cette perte de repères qu'on a de nos propres souvenirs. Et s'il veut refaire la paix avec lui-même, finalement, et comprendre comment il en est arrivé à un drame, que je ne vous raconterai pas pour laisser à tes auditeurs un petit peu de suspense, parce que c'est un peu un polar en même temps. Hein. Mathias Hénard, il revendique beaucoup d'avoir écrit un polar. Nous, on va mener une espèce d'enquête, mais au fin fond de la tête de Lac d'Ar. On va la mener doublement par les sciences de
neurosciences,
comment notre tête fonctionne, le peu qu'on sait, et puis se rendre compte que finalement, la fiction est bien plus forte pour essayer de reconstruire notre cervelle. Voilà pourquoi on a cette belle équipe de 5 vidéastes qui bossent 7-7 pour arriver à reconstituer les souvenirs de Lac d'Ar, donc un peu les nôtres.
Ce travail vidéo sera en projection pendant le spectacle ?
Ouais, il est baigné de ça, on est baigné d'images, notre cervelle fonctionne par images, donc on reconstitue ça, on reconstitue ce bain, la scénographie permet d'envelopper le personnage principal dans ce bain d'images, ouais. On est en même temps habité comme ça, tu vois, là je te vois dans ce fond rouge, donc il y a comme ça des ambiances, peut-être de ce théâtre, souvent quand je repense à cet endroit, il me reste toujours ce rouge un peu lit de vin. Donc lui va comme ça passer d'ambiance en ambiance, et puis tout d'un coup on a ces petits films de moments de nos vies, des rencontres importantes, des grandes engueulades, tout ça, mais personne n'est capable de reconstituer une engueulade avec réplique 1, réplique 2, réplique 3, réplique 4. Donc voilà, oui, on va projeter ça. Alors on le projette sur plein de supports, mais notamment le mur de cette prison dans laquelle il est enfermé.
Qu'est-ce qui a motivé le projet de ce spectacle ?
Le roman lui-même. Le roman, il m'a bouleversé, moi. Je me suis dit, c'est incroyable d'arriver à aussi bien raconter la complexité de nos rapports le rapport fille-garçon, altérité, nord-sud, comment la symétrie de la liberté, qui me rend fou depuis que je me suis rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir voyager partout pendant que d'autres n'ont pas le droit. Et que dans cette asymétrie de la liberté, il y a le début de l'horloge qui se dérègle, d'où la paranoïa potentielle, d'où l'inquiétude sur les cultures des autres. Et Mathias Sénard, c'est un arabophone amoureux des cultures du Sud, il les connaît très bien, et je trouvais qu'il en parlait avec en même temps grande lucidité et en même temps beaucoup d'amour et ce côté un peu polar. Et ça, c'était chouette pour du théâtre, ça permettait de ne pas être trop sentencieux. Aimez-vous les uns les autres, tout ça, machin. Non, c'est compliqué. Il tue. Hein. Je ne vous dis pas qui, mais il tue. Pour un humaniste, c'est chiant que le héros soit un tueur.
Je reviens sur ce projet qui dure quasiment 2 mois au sein du théâtre. Vous en êtes où par rapport à ce périple?
Et bien là, on vous invite ce soir à ce qu'on appelle une soupe de création. Après, ça fait un petit mois qu'on est là. On a beaucoup travaillé avant au Maroc. On a beaucoup travaillé en adaptation. On a beaucoup travaillé avec des classes aussi. Donc on en est plutôt à 3-4 mois de travail. Il reste un joli mois ensemble. On est bien. Tout se met en place joliment. Le travail impliquait aussi une dimension circassienne, un artiste de cirque. J'avais envie que l'Agdar ne soit pas un comédien, mais un artiste de cirque, le personnage qui joue l'Agdar, parce qu'il me semblait qu'il se débat aussi dans son corps, ce jeune Marocain. Il est enfermé de plus en plus dans sa vie. Et il se débat avec son corps, il a besoin de... Et il me semblait que scéniquement, ça pouvait amener des choses. Et ça, c'est déjà très... Beaucoup de tableaux sont en place. L'adaptation est presque finie. Les films d'ambiance sont chouettes. Non, tout se met en place, tranquillement. Avec un bon esprit malgré tout ce qui s'est passé en début de mois qui amène une espèce de responsabilité pour être encore plus intelligent que ce qu'on avait envie d'être en toute prétention.
Il y a 5 vidéastes qui travaillent conjointement sur ce projet. Et combien y a-t-il d'autres personnes qui participent au total?
Sur le plateau, ils sont 3 acteurs. Un acteur marocain, artiste de cirque, acrobate, un comédien français qui accompagne comme ça le personnage dans reconstituer sa vie, et puis il y a l'ami, le grand ami de Bassam. Donc ils sont 3 sur plateau. Il y a une belle équipe aussi technique qui construit les décors, les accessoires, les costumes. Et puis il y a une équipe administrative qui fait que tout ça existe, parce que tout ça, c'est notre travail, donc il faut des gens pour faire tous ces papiers. Voilà. Donc ça fait une équipe d'une vingtaine de personnes quand même.
Bruno, merci. Et puis je vais essayer de me promener
un petit peu. Oui, promène-toi, va dans le théâtre mobile. Voilà. Parce que tout ça...
Le spectacle, c'est à 17h. Hein.
Voilà, c'est pas un spectacle.
C'est une présentation.
Un petit bout à bout de là où on en est. On va vous montrer un croquis, un petit dessin.
Toi, tu as affaire sur un logiciel de montage.
Oui, Jeanne Van Monkoven.
Tu y prends plaisir?
Beaucoup, beaucoup.
C'est un outil que tu connaissais déjà?
Pas du tout. En fait, jusqu'à maintenant, j'avais appris à monter sur Final Cut. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai vu l'annonce de la compagnie de la Fabrique des Petites Utopies qui cherchait un acteur ou une actrice. Et je les ai appelés en leur disant, moi, je ne suis pas actrice, mais je veux bien faire du montage avec vous s'il y a de la vidéo. Et ils m'ont dit oui, presque tout de suite. Donc, je me forme à un nouveau logiciel que je ne connais pas, là, sur Adobe. Voilà,
Adobe Premiere?
Ouais.
D'accord. ça reste assez simple d'utilisation à mon goût.
C'est comparable à Final Cut 7, je trouve. Et puis après, j'apprends aussi à faire un peu des effets sur After Effects parce qu'on a des problèmes de saut d'image. Donc il y a pas mal de traitements pour faire le montage.
Post.
Voilà, mais ça m'éclate vraiment bien, ouais, de faire des atmosphères de Tanger et tout ça.
Et qu'est-ce qui t'a attiré sur ce projet ?
Qu'est-ce qui m'a attiré ? Eh ben, l'idée qu'il y ait plusieurs disciplines mélangées, je trouvais ça chouette. Et puis j'avais déjà entendu parler de la compagnie, mais finalement j'avais jamais rien vu. Et quand je suis arrivée ici, j'ai un peu survolé le livre de Mathias Sénard qui m'a bien accrochée. Voilà, puis ça a bien marché avec l'équipe, donc je pense que je vais rester.
D'ailleurs, Daniel Mermet, l'émission parle de quoi aujourd'hui ?
Alors,
François Gourgue.
Là, c'est Gérard Filoche qui est en train de raconter ce qu'il pense des propositions de loi à Macron. Et ma foi, j'ai été obligé de la réenclencher plusieurs fois parce que avec la soudure, avec la meuleuse, j'entends pas tout. Alors du coup, là, c'est la deuxième fois que je l'écoute. Et par morceau, j'arrive un petit peu à saisir sa pensée qui est assez étonnante. Voilà.
C'est un sujet qui te tient à cœur hein.
Non. Non, pas particulièrement, mais tous les sujets qu'ils ont abordés... mériter qu'on prête l'oreille. Et puis de toute manière, je leur fais entièrement confiance pour me tenir informé de ce qui est important en ce moment. Donc je suis bien content de m'être abonné à cette radio libre.
Qui s'appelle On le taira le nom, hein, il est trop connu.
Ouais, non, mais je sais même pas comment ça s'appelle. Je crois qu'ils ont gardé le même nom là-bas si j'y suis. Mais en tout cas, maintenant, c'est sur Internet, c'est en libre accès en partie et une partie est sous abonnement. On va dire que les parties fraîches, toutes fraîches, sont pour les abonnés et puis les parties qui sont plus tout à fait fraîches sont en libre accès. C'est un fonctionnement que je trouve assez formidable. Du coup, voilà, je paye la radio. Je paye ma radio, pourquoi pas.
Et tu es technicien, semble-t-il, puisque tu as un casque à soudeur sur la tête.
Il est tout neuf en plus.
Voilà. Et tu t'appelles comment, pardon ?
Mon prénom, c'est François. Donc, moi, j'ai plusieurs rôles dans la compagnie. Je suis directeur technique, mais aussi scénographe. Je dirige la construction des décors. Je conduis les poids lourds. Et puis, voilà, je travaille de manière étroite avec Bruno, notre metteur en scène, notre chef, notre directeur artistique, sur les projets, notamment sur l'espace d'accueil et sur l'espace dans lequel vont se jouer les spectacles et la manière dont les spectateurs sont accueillis. Voilà, donc c'est assez passionnant. Et en même temps, j'ai les mains dans la ferraille, dans le bois, dans le plastique, dans la plomberie, dans tout ce qui vient, dans tout ce qui est nécessaire de mettre en œuvre projet après projet. C'est souvent, les projets sont souvent assez différents et c'est marrant de devoir comme ça aborder plusieurs métiers, des fois d'apprendre un petit peu un nouveau métier. Alors chaque fois c'est effleurer les métiers, mais quand même c'est y goûter.
Et ta formation initiale, c'était quelle
profession ? Non, j'ai fabriqué des kilomètres d'étagères pour mes parents qui étaient libraires.
Du coup, je remets Gérard Filoche pour la troisième fois.
Ouais, je suis désolé, hein.
Attends, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal du tout.
Ouais.
Moi, je suis l'assistante du metteur en scène.
Et ça consiste en quoi, assistante de metteur en scène ?
Janine Goubet.
C'est s'occuper de toutes les questions pratiques, le soulager, on va dire, de toutes les questions pratiques relatives à la construction du spectacle. C'est-à-dire, lorsqu'on construit les répétitions, lorsqu'il amène des idées, je suis là pour tout noter. Je note tout ce qui se passe, les changements sur les répliques, les intentions de jeu sur telle ou telle partie de mots, de répliques, etc. Et ensuite, je transmets au corps de métier toutes ces notes. Alors, je transmets aux comédiens les notes, les indications qui ont été formulées sur leur jeu ou sur leur déplacement pendant la répétition. Et je transmets à l'équipe technique, au scénographe, à l'accessoiriste, à l'équipe vidéo. Je transmets tout ce qui est venu pendant la répétition pour qu'ils modifient leur travail, qu'ils créent des accessoires nouveaux, qu'ils tout ça. Je prends les rendez-vous pour le metteur en scène.
Vous êtes dans l'équipe de la petite fabrique,
des petites
utopies. Merci, pardon.
Oui.
Et depuis combien de temps?
Moi, j'ai un statut un peu particulier. Je suis une nouvelle retraitée. Je dirigeais jusqu'à il y a un an la salle de spectacle Le Grand Angle de Voiron. Et dans ce cadre-là, j'ai accompagné le travail de Bruno pendant des années. J'ai coproduit ses spectacles. J'étais une des premières directrices de salle quand il a créé sa compagnie, qui a accompagné son travail. Je l'ai très souvent accueilli dans ma salle. On a développé tout un travail d'éducation artistique auprès de la population, des scolaires avec lui, etc. Comme avec d'autres compagnies, mais disons qu'on a développé un partenariat tel et on va dire une amitié qui a fait que quand il a su que je prenais ma retraite, il m'a dit tu viendras, me fais là un coup de main, voilà. Donc voilà, je suis une retraitée active, bénévole et active, voilà.
Puis vous êtes sur les routes aussi souvent?
C'est la première création que j'accompagne. On est allé au Maroc, oui, dans le cadre de cette création, parce que la compagnie avait un mois de résidence au Maroc, à Tanger, Fès et Rabat. Nous avons été accueillis dans les centres culturels français. Nous avons travaillé avec l'école de cirque Chemsi de Salé, à côté de Rabat, pour trouver le comédien circassien qui jouerait le rôle principal de Lardard. Donc j'ai accompagné tout ça, effectivement.
Un projet qui vous a séduit, en quoi?
C'est pas que ce projet chez Bruno Tircuire qui m'a séduit, c'est toute sa démarche, depuis que je connais son travail. Toute cette énergie qu'il s'est déployée, La pertinence du choix des textes qu'il veut monter, ce théâtre, on va dire d'un mot qui paraît démodé mais qui ne l'est pas, ce théâtre engagé qu'il mène, c'est un théâtre vivant qui mêle tous les arts. Et là, en mêlant vidéo, cirque, théâtre, il a trouvé une complexité encore plus forte pour ce projet. Donc c'est l'ensemble de la démarche de Bruno, sa démarche théâtrale qui me passionne depuis des années.
Sur ce qui se passe, cette aventure qui se passe au sein du théâtre.
Bah, écoute, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus.
Isabelle Catois.
Le projet a vu le jour, et puis de voir ce théâtre vivant dans tous ses recoins, que ce soit les loges transformées en ateliers de couture, les gradins transformés aussi en ateliers de construction, décors, des élèves sur le plateau partout, l'équipe vidéo dans le hall, un théâtre qui vit pleinement. Et puis en plus avec des gens et des artistes de haute qualité et humainement vraiment extraordinaires. Donc ça roule tout seul. Là on a eu déjà la première représentation avec le spectacle La nuit les arbres dansent qui était magnifique. Et puis là cet objet en construction qui est à mon avis un petit bijou qui mélange donc cirque, vidéo et théâtre et un texte contemporain. Moi j'ai hâte de voir la suite, encore plus d'un mois ici, donc...
Je ne sais pas si tu as tout suivi depuis le début de cet événement. Le travail vidéo consiste en quoi et par qui et comment?
En fait, la place de la vidéo, c'est un peu la mémoire, c'est le souvenir, c'est les souvenirs d'Ayoub, en fait, voilà, qui sont retranscrits et qui, on le voit dans des situations de sa vie avant d'être en prison. Et pourquoi il est arrivé en prison.
Donc on s'arrête à la réplique de Jean-Luc sur l'aide de Brunier après la lecture des comportements complexes. Ok. Donc début de la page.
On peut noter la QS, s'il vous plaît.
Ouais, 17h30. C'est bon. Un autre, ok.
Bonsoir. Est-ce que vous connaissez l'illusion du bouchon de champagne? Tenez. Prenez-le entre vos deux doigts, placez-le à peu près à 30 cm de vos yeux, fermez un œil et tournez doucement entre le pouce et l'index. Alors, vous voyez?
Pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui. Mais continuez, persévérez. Bon, on a l'impression de perdre le contrôle de nos doigts. C'est incroyable, hein? Le cerveau a inversé la réalité. Il a renversé l'objet d'avant en arrière. Alors, là vous voyez? Ah. Bien. Ouvrez les deux yeux, ça va quand même mieux avec nos deux yeux. C'est incroyable. Pour un objet aussi simple, on a besoin de nos deux yeux. Pour regarder le monde, je crois que on ne sera pas trop nombreux. Ayoub, tu es prêt?
C'est bon pour moi.
Alphonse, ça va?
Pareil.
Rue des voleurs, bien plus qu'un roman. Son auteur, Mathias Hénard, a transcrit l'histoire de Lakhdar Monsef, 24 ans, au moment de son arrestation. Le contexte général de l'histoire se passe au moment du printemps des révolutions arabes et des manifestations des indignés en Espagne. L'artiste Ayoub Essoufi va interpréter l'histoire du personnage principal. L'artiste cherche à imaginer le centre de détention dans lequel Lakhdar Monsef purge une peine de 20 ans de prison. Dans le roman, le personnage va passer une grande partie de son temps à se demander comment il en est arrivé là. Ayoub Essoufi a appris la totalité de la vie de Lakhdar. Il la connaît presque par cœur. Il l'a pratiquement vécu. Ayoub ressemble à s'y méprendre à Lakhdar Monsef. Même âge, même milieu socio-économique au Maroc, même amour transterritorial, même instabilité. Jean-Luc Moisson, 62 ans. C'est mon expérience en prison qui a motivé ma présence sur scène. Je vais le guider, enfin, l'accompagner lors de ces tentatives de reconstruction de la mémoire de Lakhdar. Pour nous aider, des chercheurs en neurosciences et en psychologie ont mis en place le dispositif, ont su éclairer le dispositif.
La première expérience que nous allons tenter va nous permettre à visualiser les images mentales de l'enfance de Lakhdar.
C'est d'abord bien d'abord toi, Jean. Écoutez plutôt. Donc, nous allons opérer dans la mise en place de ce dispositif.
La mise en place de ce dispositif.
Écoutez.
Écoutez plutôt. La reconstruction de la mémoire. La mémoire donne-t-elle la capacité de se souvenir véritablement? Permet-elle consciemment de revivre des épisodes de notre vie passée? Les recherches actuelles s'intéressent par exemple à la mémoire spatiale. quel est ce lien entre notre mémoire et notre corps? La mémorisation de notre enfance s'inscrit-elle dans ces chemins tant de fois parcourus?
Jean-Luc Moisson.
Bonsoir. Vous êtes comédien?
Tout à fait.
Et vous participez à ce spectacle qui s'appelle comment d'ailleurs?
Rue des voleurs.
Rue des voleurs. Et la question, parce que j'ai vu un peu les répétitions tout à l'heure, est-ce qu'il y a une part de autobiographie pour les comédiens ou vous vous sentez dans quelque chose dans ce genre? Est-ce que vous vous retrouvez?
C'est une vraie question parce que le metteur en scène me demande de jouer moi-même. Et d'ailleurs sur le texte, c'est marqué ce personnage a mon prénom, ce qui ne se fait jamais en théâtre d'habitude. La personne n'est pas le personnage, et donc là effectivement, il me demande de ne pas jouer. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, je représente sur scène le metteur en scène. Mais quant à savoir qui est ce personnage exactement, ben ça, je vous le dirai le 27 février, parce que pour l'instant,
c'est à l'étape d'ébauche encore.
Oui, tout à fait. Oui.
Et qu'est-ce qui vous a séduit? Vous participez à cette compagnie, la Fabrique des Petites Utopies, depuis combien de temps?
Depuis 8 ans. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler 3 fois avec des équipes. Et là, j'avais vraiment envie de retrouver une vie d'équipe, quoi.
Donc. Ça induit une tournée aussi avec ce camion qui se déploie en une salle itinérante.
Ça induit un changement de vie parce que j'ai quitté ma ville pour venir vivre à Grenoble, qui est le siège de la compagnie.
Et là, ça s'associe avec une vie de nomade quelque part.
Alors moi, je suis pas un nomade. Je suis pas un nomade. J'ai une famille, avec une petite fille, enfin, qui a grandi depuis, mais. Mais je suis nomade uniquement, les temps de création ou les temps de tournée. Donc j'ai un petit bout de caravane, ou même une caravane entière des fois. Et ça empêche de vieillir, ça empêche de devenir bête, ça empêche de s'endormir.
Et justement, qu'est-ce qui vous a motivé sur ce projet? D'après vous, quel est le motif qu'on peut voir émerger dans cette rue des voleurs?
Combattre les préjugés, les amalgames, les idées toutes faites, les peurs, ouvrir la parole, pouvoir déverser ce qu'on a sur le cœur et échanger.
La première expérience que nous allons tenter va nous permettre à visualiser les images mentales de l'enfance de l'artiste.
L'artiste que nous avons choisi est acrobate pour les questions de résistance. Il va traverser étape par étape la vie de l'Agdar. Notre équipe de vidéo franco-marocaine va décoder, puis diffuser en direct les images ainsi retranscrites par son corps.
Tanja, tu vois clair dans mon enfance à Tanger. Il y a ce qu'elle m'a vôtre. Quand tu ouvres le feu, tu auras un pelle qu'elle t'aide. Enfance à Tanger. T'as fautif Tanja, enfance attachée. T'as fautif l'homme vôtre. مغطى. كتمشي 5 كيلومتر على رجليا باش تشوف البحر. شوفت تو لي جور 5 كيلومتر ا بيي بوغ الي روغاردي لا مير. ديالك المرسى مغطى. مرة كنلقى راسي في المرسى بلا ما نعرف علاش. بوتيتر مغطى لو بور. Parfois je cours vers le port sans savoir pourquoi.
Ayoub S. Soufi.
C'est un roman vraiment qui reflète et qui remet en question les clichés de chaque société pour moi. Et vraiment qui travaille sur le rapprochement, parce que si on remet en question beaucoup de certitudes qu'on a déjà envers l'autrui, si on fait ça, alors ça c'est déjà un pas pour avancer vers le rapprochement. Alors pour moi, Rue du Voleur, c'est pas que l'itinéraire de l'Akhtar, c'est pas que l'amour de Judith, c'est pas que le fait de poignarder son ami, tout ça c'est que des signes, mais vraiment ça parle plus sur notre réalité, nos sociétés, les différences qu'on a, et si on peut dire le fait d'accepter l'autre, le refus de l'autre. Alors pour moi c'est ça grosso modo la Rue du Voleur comme aventure.
Ça, en résumé, pour toi ça démontre quoi ce spectacle?
Ben, ce spectacle, ça parle sur l'itinéraire de l'Akhtar. L'Akhtar, c'est un personnage, c'est un jeune Marocain de Tanger exactement, qui va zoner, qui va être viré de chez lui, qui aime les polars américains et tout ça, qui est un petit peu contre soi, contre ses traditions, quelqu'un qui ne sait pas c'est qui par rapport à lui-même, il n'arrive pas à se définir. Alors c'est quelqu'un qui se perd pour moi, et après il va passer dans des situations. À chaque fois, il interprète ou il les choses d'une manière négative, chose qui va lui rendre un petit peu d'une malheur vers une autre malheur. Alors, chose qui va rendre pessimiste et engagé et emprisonné, si on peut dire, dans ce truc mentalement, avant d'être emprisonné vraiment dans la prison après le fait de poignarder son ami. Alors c'est un jeune qui va être zoné parce qu'il a côtoyé sa cousine. Il va zoner dans Tanger. Après il va être accueilli par une association islamiste plus ou moins, grâce à son ami, son meilleur ami, qui a fait tout ça pour lui. Alors après, il va plus pouvoir les trouver parce que après un attentat, l'attentat de Marrakech. Après, il va rencontrer Judith. Alors c'est un nouveau amour par rapport au premier. Il va partir. Travailler dans une boîte informatique. Après, il va travailler dans Comarit. Et tout ça, l'auteur, quand il parle sur tout ça dans le roman, il expose un petit peu les images qui se passent exactement par rapport à les situations que le personnage a vécues. Par exemple, comme Marie, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, par rapport aux crises, par rapport à tout ça. Après, il va entrer clandestinement en Espagne. Il va travailler avec Cruz, et ça, c'est côtoyer les morts. Après le fait de les côtoyer, on le fait en écriture, quand il était en train de travailler chez Bourlier, dans la saisie kilométrique. Alors, la mort est notre foi. Il avait des envies, tout ça, il voulait découvrir l'Europe et tout ça. Il est tombé dans un gouffre de malheur. Alors, c'est ça. Après, le mec Cruz, ça va être empoisonné. Lui, il fuit une autre fois son refuge vers Barcelone et va être un petit peu dans un cadre plus... Et plus étroit, tout ça, plus strict. C'est rue des voleurs. Et là où il va vraiment voir la misère, vivre la misère de l'Europe. Après, par coïncidence, il va recroiser son ami avec son cheikh, ça veut dire son maître spirituel et tout ça. Ça parle plus sur aussi le truc de. Le fait le fait de paranoïaque, être paranoïaque envers les gens. C'est ça en gros. Il va tuer tout ça avec, je veux dire...
On va pas dévoiler tout le spectacle, donc peut-être il faut laisser un peu de mystère.
Ouais, c'est ça.
Je comprends des petites choses, parce que si je parle de tout le spectacle... est-ce que tu te retrouves vraiment dans ce personnage? Est-ce que tu as un sentiment qu'il y a une fragilité aujourd'hui en France avec l'amalgame où on confond tout, les nationalités, les races aussi, les religions? Est-ce que c'est un sujet qui est vraiment l'actualité, on peut dire. Et Bruno disait qu'il fallait avancer sur ce projet avec beaucoup de prudence au niveau de l'éloquence et de la démarche des mots.
Ouais, c'est vrai. En fait, ça part surtout sur l'amalgame. Et c'est vrai qu'on doit être prudent au niveau de mots et tout ça. Et c'est un thème fragile, comme tu l'as appelé. Alors, c'est vraiment débile le fait de faire l'amalgame comme ça facilement. Et malheureusement, c'est le cas. C'est facile à faire l'amalgame plutôt de remettre les choses en question, de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. En fait, faire un cheminement au niveau de raisonnement, de dire ben est-ce que c'est vrai, est-ce que tout ça, c'est vraiment c'est, je sais pas comment dire, mais on aborde ces sujets là par le spectacle qu'on va présenter.
Et alors le cirque, quel est le rapport justement avec le personnage, le cirque? Toi tu es circassien toi-même, tu es spécialisé dans les arts de voltige,
l'acrobatie. Ouais. Ben le cirque, c'est vraiment de donner pour donner une autre dimension à cette histoire, comme le cirque, les dimensions, qui c'est par rapport au cirque, par rapport aux vidéos aussi, on a ces deux dimensions pour amener le spectateur à vivre une expérience spéciale, si on peut l'appeler comme ça, et pour charger plus de sentiments et tout ça, et pour vraiment. Pour moi, le cirque, c'est le fait de laisser les choses un petit peu abstraites. C'est vraiment remettre en question. Et ça, c'est le croisement avec ce que je disais depuis tout à l'heure. Alors, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est à 100% ça, mais là, on fait travailler, imaginer nos raisonnements pour...
L'intuition.
Ouais, c'est ça. Ouais, l'imagination et l'intuition, c'est vrai.
Et dans le sens où, je le répète, l'intuition, c'est de l'intelligence, c'est un accéléré.
Ouais.
Voilà. Et toi, tu fais partie de la compagnie depuis combien de temps?
En fait, ça fait très peu.
Très peu.
Ouais.
Tu débutes avec cette compagnie,
ouais.
Avec ce spectacle, en fait.
Oui. Ouais. Je me suis casté, je veux dire, en septembre 2014. Ça fait presque 3 mois et quelques.
D'accord.
Et c'est que ça. Alors, je suis tout nouveau avec cette compagnie. Et je suis heureux. Bah.
C'est ce qui compte. Travailler dans le bonheur.
Ouais, c'est ça. C'est vrai.
Il se lèche le poil et la queue à la longueur du jour. Je devine ces vieux qui se tapent des princesses de mille et une. Tiens, je vous ai fait. Combien de ces salopards ont demandé de leur arranger une petite tête? Tanja, maintenant tu me l'as dit, voilà. Faites plaisir.
Un corps en mouvement peut se réapproprier les espaces de son passé pour les raconter. Si on augmente un peu le mouvement, si j'ajoute la passion, peut-on obtenir des souvenirs plus précis.
J'aime lire.
Alors je me vais vers l'horizon des polars américains.
Des policiers dans lesquels il y a des grosses bagnoles et des belles blondes sensuelles.
Oh, tu dévores ces aventureux fricots à flot et où les femmes le volent facilement. Mais Maria, ma cousine, est la seule femme qui me tente vraiment. Sincèrement, monsieur. Avant d'avoir 18 ans, le seul cul que j'aime mater, c'est celui de ma cousine Maria. Est-ce de l'amour? C'est de l'amour ou de l'attirance pour des femelles?
Organisons une deuxième expérience pour essayer de distinguer amour et instinct. Imaginons Myriam. Que le cerveau joue un rôle essentiel à chaque étape de la rencontre sexuelle. Il est d'ailleurs probablement notre organe sexuel principal. Mais notre cerveau n'est pas fait d'un seul bloc, ni isolé du reste du corps. Comme pour toutes les espèces animales, il gère nos réactions instinctives en fonction des informations provenant de notre entourage et celles éprouvées par notre corps. Selon les situations, il provoque alors des attitudes de fuite, d'agression ou de désir sexuel. Mais sommes-nous encore pour autant des animaux esclaves de nos instincts? Expérience numéro 2, les amours adolescents. On va essayer de faire surgir un moment qui n'est pas si lointain dans la mémoire de l'ACDA, grâce à notre équipe vidéo qui a trouvé un graffiti dans sa chambre, à Tanger. Celle, tu la vois, Steph? Est-ce que tu peux nous le traduire?
Mais les hommes sont des chiens qui se frottent les uns aux autres dans la mise. Se lèche le sexe, prêt à tout pour un os.
C'est toi qui as écrit ça.
Connerie, mon trop copain. J'avais pas besoin. Mais rien. Petit cousin éloigné. Je l'aimais vraiment. J'aurais pu l'épouser.
Est-ce qu'au Maroc, on peut coucher avec sa cousine?
Non, mais c'est possible. Avant le mariage, on doit offrir le respect. À cette époque, Mariam, elle vit sur le même palais que moi. C'est la chance. Je la croise pratiquement tous les jours. Elle m'excite terriblement. Je me demande si je le faisais exprès. Texte?
C'est le chant? Non, c'est le film. C'est le chant. Il y a un film.
C'est le chant qui commence, le film qui se met en place. Mmh. C'est le parfait. Texte, plan, tu chantes. Le chant et le film se met en place.
والقلب مجروح.
Alors, il devient violent. Allonge-toi, là, et hop, tu bascules en voyant le film. Et intervention du père. T'as le temps de te détacher. On y va, on continue.
Coucher avec ta cousine. Me faire ça à moi, lardard. À moi, ton père. Moi, un homme de bien. Moi qui n'aime jamais maltraiter ma femme. Moi qui n'ai jamais maltraité ma femme.
Comme ça.
Larda, ça fait combien de temps que tu n'avais pas bouffé un œuf? J'ai trouvé un endroit pour t'abriter. Tu pourras même t'y ressourcer tranquille. Mais je commence à fréquenter cette association coranique du quartier depuis quelques mois. Ils sont super. On s'occupera de toi. T'inquiète pas, jeune mécréant. Les gens qui animent ce centre coranique sont différents. Ils ne te jugeront pas. Viens. Agis.
Vous y interprétez quel rôle d'ailleurs, vous?
Le rôle de Bassam, l'ami de Lardar.
Alphonse Atakolodjou.
Qui est supposé commis l'attentat. Voilà.
D'accord. Sans trop dévoiler le spectacle, je suppose, vous dites l'essentiel là.
Ben, l'essentiel, je pense que c'est un spectacle qui trace en fait à la fois le parcours d'un jeune Marocain qui rêve de partir, et autour de son départ viennent se greffer ces histoires de printemps arabe. Voilà, c'est un jeune qui est tombé amoureux, voilà, d'une touriste comme ça. Mais ce qui se passe dans sa tête, c'est de savoir est-ce que vraiment c'est de l'amour ou pas. Est-ce que c'est juste partir le rêve de l'ailleurs? C'est ça qui l'anime? Point d'interrogation.
Voilà, mis à part qu'il s'en fout.
Non.
Ah, c'est parce que j'ai entendu ça tout à l'heure pendant la répétition, mais ça va changer.
Je ne sais pas s'il s'en fout.
D'accord.
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il s'en fout. C'est dans sa tête, c'est dans son cœur. On ne peut jamais savoir ce que l'individu pense réellement, enfin, à moins qu'il le dise lui-même, parce que le rêve de l'ailleurs, ça anime tout le monde, hein, que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée ou d'ici. On se demande même pourquoi il y a des frontières, il y a des barrières, oui.
C'est peut-être l'argent qui régit ça. Et vous êtes dans cette compagnie depuis combien de temps
Oh, je vais dire, ça fait bientôt 15 ans que je travaille avec la fabrique des petites utopies. Je suis venu au tout début, quand j'ai rencontré Bruno, voilà. Mais ce n'était pas pour y rester, c'était juste un premier projet comme ça qui m'a fait venir. Et au fil des ans, Bruno a demandé que je sois membre permanent de la compagnie. Donc j'y suis depuis 2001, je vais dire, voilà, membre permanent de la compagnie, en tant que comédien, technicien.
Qu'est-ce qui ressort comme motif ou leitmotiv de ce spectacle, La rue des voleurs? Quel est le message pour vous qui passe?
Vous savez, comme message, je pense que Bruno est en train d'axer le spectacle sur ce que la mémoire peut retenir, sur la capacité, les capacités de souvenir de l'individu, les perceptions que nous avons, les cas de perception, je vais dire, que nous avons de ce que on croit se souvenir ou pas. Parce que ce que on vient d'entendre là, peut-être que d'ici demain, on te demande la même question, te repose la même question, tu ne vas pas le restituer pareil, je pense.
Donc la mémoire, c'est la capacité de la mémoire et les défauts aussi de la mémoire, enfin, déficience de la mémoire, je vais dire.
Centre musulman pour la diffusion de la pensée coranique.
Alors, ils étaient vraiment différents des bienfaiteurs islamistes?
Oui, différents. Les islamistes, je ne sais rien. Pieux, généreux, le responsable, un certain outil, il se fait appeler cher. Un type très calme, vraiment savant. Il me demande de lui raconter mon histoire. Il me questionne pour savoir si je suis pratiquant, croyant. J'ai même réussi à répondre oui sans avoir l'air d'hésiter.
Ambulation.